Vous êtes sur RTL.
RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 12h30, 14h30, 2h d'infos, de débats mais aussi d'opinions avec les auditeurs, l'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, un conseil des ministres aux airs d'au revoir ce matin à l'Elysée, dernier sans doute d'ailleurs du gouvernement Castex. Dans ce journal également, l'ancien patron de la SNCF à la barre, aujourd'hui au procès de la catastrophe de Brétigny. Et puis RTL continue à vous donner des trucs et astuces pour faire face à la flambée des prix.
Et puis donc cette mise en examen de ce policier, homicide volontaire, c'est-à-dire meurtre. On essaiera de comprendre. Et à 12h50, la une du magazine Elle, je vous le disais, en vedette, cette semaine, un mannequin amputé des deux jambes.
Notre question du jour sur RTL.fr, profitez-vous des bons de réduction et des promotions en supermarché? On vous a beaucoup parlé de ces coupons ce matin, vous dites oui à 54%. Notre météo avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Et c'est encore une belle journée.
Et oui, un ciel juste un peu plus voilé sur l'ouest, c'est vrai, mais ça devrait s'éclaircir au fil des heures, ne vous inquiétez pas. Sur une bonne moitié est, c'est du soleil, le soleil domine, mais ça reste nuageux dans le sud-ouest. Quelques averses parfois orageuses cet après-midi sur les reliefs des Pyrénées, du Massif central et du sud des Alpes, le tout sous des températures encore très douces, globalement comprises entre 19 et 23 degrés et jusqu'à 26 près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Peggy. RTL Midi. On vous a beaucoup parlé ces derniers jours, ces dernières semaines de la pénurie d'huile de tournesol. Eh bien, figurez-vous qu'on pourrait bientôt manquer d'huile de palme. L'Indonésie, premier producteur mondial, vient en effet de suspendre toutes ses exportations. Bonjour Virginie Garin.
Bonjour.
Ça veut dire quoi? Qu'on va manquer de Nutella, par exemple?
Alors, manquer non, mais ça pourrait avoir un impact, là encore, sur les prix. L'Indonésie, c'est le plus gros producteur. 56% des exportations mondiales d'huile de palme. Alors, comme il n'y a plus de tournesol ukrainien, les industriels qui ont besoin d'huile végétale se sont tournés vers l'huile de palme. Et l'Indonésie préfère fermer ses frontières et garder sa production pour sa population. L'huile de palme, on en trouve dans des milliers de produits alimentaires, mais aussi dans les cosmétiques, les lessives, les carburants. Le deuxième pays producteur, c'est la Malaisie, qui, elle, continue à en vendre. Et Ferrero, qui fabrique le Nutella, s'approvisionne surtout en Malaisie. Donc le groupe explique qu'il n'aura pas de problème de fabrication. En revanche, le prix de tout ce qui contient de l'huile de palme risque d'augmenter dans les mois qui viennent, car depuis un an, les cours ont progressé de 60%.
Merci à vous Virginie pour ces explications.
À l'Élysée, 4 jours après la réélection d'Emmanuel Macron, ce premier Conseil des ministres.
Le dernier sans doute aussi du gouvernement Castex. Bonjour William Galibert, vous êtes
Bonjour.
Sur place pour RTL. Et le président a d'ailleurs bien fait les choses, hein. Il a prévu un buffet.
Oui, c'est ça. Le buffet est prévu entre la salle des fêtes et les jardins. Le conseil va vite être expédié pour se consacrer au petit four. Alors, en apparence, ça chahute. Roselyne Bachelot a sorti son téléphone tout à l'heure pour filmer la presse qui était en train de la filmer. Barbara Pompili a fait crisser les pneus de sa voiture électrique sur les graviers parce qu'elle était en retard. C'est un peu une ambiance dernier jour d'école. Le seul problème, c'est que tout le monde ne sera pas admis en classe supérieure. Dans les ministères, c'est l'heure des cartons, des rouleaux de scotch, l'heure des ambitions, mais aussi des regrets et la peur du vide et du lendemain. Alors, parfois, les sourires sont un peu de façade. Ils sont 40 au dernier comptage et si 7 ou 8 survivent au prochain remaniement, ça sera déjà pas mal. Je vous ai préparé un petit quiz, Amandine et Pascal. Mmh. Si je vous dis ministre chargé de la ville.
Carl Olive.
Les actuels. J'ai envie des actuels.
On n'est pas capable de citer la honte.
Bon, Nadia est secrétaire d'État à la biodiversité.
Non, c'est horrible, vous êtes horrible, William.
Je m'arrête là avec Bérangère Abba. Il ne s'agit pas de dénigrer leur travail, mais de montrer que beaucoup ont eu du mal à exister pendant ce gouvernement pléthorique. Emmanuel Macron promet un gouvernement resserré, mais pour tout vous dire, ça fait 5 ans qu'il le promet sans y arriver.
Ouais, voilà, exactement. Resserré.
Ça fait 40 ans qu'on nous le promet, donc verdict mercredi prochain. À chaque fois, on nous en promet une quinzaine et on finit avec une quarantaine.
William Galibert, merci à vous. En direct de l'Élysée pour RTL. La guerre en Ukraine et la Russie continuent de maintenir la pression. Les livraisons d'armes menacent la sécurité européenne. Voilà ce que dit ce matin le Kremlin. Hier, Vladimir Poutine promettait une riposte rapide et foudroyante en cas d'intervention extérieure. Sur le terrain, la situation reste critique. Un commandant du bataillon d'Azov à Mariupol lance un nouvel appel à l'aide. Sophie Jousselin, c'est le deuxième appel à l'aide en moins de 24 heures.
Oui, le capitaine Sviatoslav Palamar intervient régulièrement sur les réseaux sociaux. Il décrit la situation dans la ville assiégée de Mariupol, comme dans ce message ce matin, où le commandant adjoint du régiment d'Azov raconte la nuit passée sous les bombes et cette guerre qui n'en finit pas, qui dure déjà depuis plus de 60 jours.
Cette nuit, nous avons été visés par un nombre colossal de bombes au phosphore. Il y a eu plus de 50 frappes aériennes. Nous avons reçu des missiles, des obus, tout ce qu'un barbare peut utiliser contre l'humanité. Qui peut me dire pourquoi nous sommes seuls contre ces avions, ces bateaux de guerre, à Mariupol un jour dure une année?
Le militaire explique que la guerre à Mariupol a déjà coûté plus $1 milliard à la Russie, en matériel, en armement. Avec cette somme, on aurait pu construire près de 200 écoles ou jardins d'enfants, des hôpitaux modernes, des maternités, pensez-y, déclare-t-il, tout en demandant la libération de la ville et l'évacuation des habitants.
Et l'ONU indique qu'ils sont en train d'essayer de préparer cette évacuation toujours de Mariupol. Merci à vous Sophie Jousselin. Au procès de Brétigny, c'est Guillaume Pépi, l'ancien patron de la SNCF, qui est à la barre aujourd'hui. On se souvient de son émotion lors de la catastrophe le 12 juillet 2013.
La première pensée que nous avons tous, c'est la solidarité vis-à-vis des victimes et de leurs familles, et une très très grande émotion. Parce que les catastrophes ferroviaires sont quelque chose qui bouleverse l'ensemble de l'opinion et l'ensemble de ceux qui sont attachés au train dans notre pays.
9 ans plus tard, Guillaume Pépi reconnaît le vieillissement du réseau, mais pour lui, Alice Moreno, ça n'explique pas tout.
Oui, la responsabilité morale est infinie, insiste l'ex-président de la SNCF. Mais pour la responsabilité pénale, c'est vous, c'est la justice. Je n'ai pas d'opinion. À la barre, l'ex-PDG a endossé le costume sombre et déroule longuement sur la sécurité. Priorité absolue de la SNCF, martèle-t-il. En 2010, avant l'accident, il admettait un vieillissement du réseau ferré en Île-de-France. Une voiture ancienne qui passe le contrôle technique n'est pas nécessairement dangereuse, corrige-t-il à la barre. Sur l'origine du déraillement du train à Brétigny, il se livre là un sérieux numéro d'équilibriste. Avant de sauter sur la conclusion d'une mauvaise surveillance des voies, lâche Guillaume Pépi, regardons d'autres scénarios, ceux qui excluent la responsabilité de la SNCF. Sur les bancs des parties civiles, hochement de tête des victimes, haussement d'épaules de désapprobation, malgré les quelques mots que Guillaume Pépi leur a adressés en début d'audience. Les victimes, disait-il, souffrent d'une violence qui ne s'efface pas.
Alice Moreno, Palais de justice d'Evry pour RTL.
Le chômage continue à baisser en France.
169 000 demandeurs d'emploi en moins au premier trimestre de 2022 par rapport à la fin de l'année dernière. C'est ce qu'indique la DARES, soit une nouvelle baisse de 5% des chômeurs de catégorie A, ceux qui n'ont aucun travail. C'est le plus bas niveau depuis 10 ans. Pour ce qui est de l'inflation, on est visiblement proche du pic. C'est en tout cas ce qu'indique le vice-président de la Banque Centrale Européenne. La flambée des prix devrait toutefois rester élevée jusqu'à la fin de l'année. Alors depuis ce matin, RTL vous aide à limiter la casse. On vous a beaucoup parlé de ces coupons de réduction ultra efficaces. Bonjour Pierre Herbulot.
Bonjour.
Vous nous avez notamment montré comment passer d'un ticket de caisse à 157 euros à 15 euros seulement. Il faut toutefois reconnaître que ça suppose un peu d'investissement, du temps notamment. Alors vous avez aussi dans votre besace toute une série de trucs et astuces bien plus simples.
Oui, c'est vrai parce que la méthode est très chronophage. Il faut faire plusieurs magasins en fonction des promos, s'inscrire sur les sites de coupons de réduction, remplir les dossiers de demande de remise après achat. Mais autrement, oui, on peut quand même réduire les prix sans y passer sa vie. Les conseils élémentaires de Laurent Anselme du site anticrise.fr.
Préparer ses achats en les anticipant, en ciblant les promotions et en n'étant pas forcément fidèle à une marque. Faut profiter des promotions qui se présentent, quelle que soit la marque, même si c'est une marque qu'on n'a pas l'habitude d'acheter.
Être opportuniste en quelque sorte et ne pas hésiter à stocker un peu les produits d'hygiène, pas faire des années de réserve. Mais par exemple, hier pour le reportage, il y avait 9 gels douches pour le prix d'un. Ce serait bête de passer à côté parce qu'il en reste un peu à la maison.
Non, il faut avoir la place pour les stocker aussi.
Alors,
si je peux me permettre.
Un petit peu, c'est ça.
9 gels douches, il faut les acheter tout de suite.
Voilà, mais globalement, ça vaut pour tous les produits d'hygiène et d'entretien. Dentifrice, produits vaisselle, lessive, couche pour enfants, protection féminine. Depuis l'encadrement des promos sur l'alimentation, les réductions sur ces produits-là sont très récurrentes et extrêmement intéressantes.
Voilà, on a compris la leçon. Merci à vous, Pierre Herbulot, du service économie de RTL. Il y a du foot ce soir, demi-finale aller de la Ligue Europa Conférence. L'OM se déplace à Rotterdam. 2000 supporters marseillais sont attendus sur place, mais les dirigeants des deux clubs redoutent des incidents. Il faut dire que les supporters du club néerlandais ont une bien triste réputation. L'OM a donc décidé la mise en place d'une fan zone sécurisée avant d'aller au stade. Jacques Cardoz est le directeur de la communication de l'OM.
Les supporters seront attendus et encadrés à la fois par nos stadiers de l'Olympique de Marseille et en même temps par les forces de l'ordre locales. Et puis ensuite, ils sont acheminés. Là, cette fois-ci, ce sera à pied jusque à l'intérieur du stade avant que le grand public puisse rentrer. Ainsi, il n'y a pas de contact entre les supporters visiteurs et les autres.
Jacques Cardoz, le directeur de la communication de l'OM au micro RTL d'Étienne Baudu, Rotterdam OM. C'est à voir ce soir sur M6. Coup d'envoi dès 21h.
Guillaume Chiez est arrivé dans ce studio et avec lui, on va essayer de comprendre le policier qui a tué dimanche deux hommes soupçonnés d'avoir forcé un contrôle en tirant sur leur voiture près du Pont Neuf à Paris. Il a été mis en examen hier, notamment du chef d'homicide volontaire à l'égard du conducteur du véhicule. Concrètement, ça veut dire qu'il est mis en examen pour meurtre. On décrypte ça dans une seconde.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et RTL en vidéo sur l'appli RTL.
RTL Midi.
Avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Le policier qui avait tiré sur une voiture à Paris dimanche faisant deux morts a été mis en examen pour homicide volontaire.
La légitime défense n'est pas formellement établie.
Homicide volontaire. Le fonctionnaire avait affirmé avoir agi pour stopper le véhicule qui lui fonçait dessus.
Homicide volontaire, le qualificatif en fait bondir plus d'un après la mise en examen de ce policier donc, qui a ouvert le feu dimanche soir à Paris tuant deux personnes. Le syndicat de police Alliance dénonce une décision inadmissible et appelle à un rassemblement lundi face au tribunal de Paris. Alors comment expliquer cette décision? Les juges auraient-ils pu en l'état décider autre chose? C'est le premier débat de RTL Midi avec nous. Guillaume Chiez, journaliste au service police-justice de RTL. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Et maître Vincent Brengart, avocat au barreau de Paris, bonjour.
Bonjour.
Vous publiez « Violence policière, le devoir de réagir » aux éditions Gallimard. Guillaume, on va d'abord faire peut-être un peu de pédagogie et rappeler ce qu'est un homicide volontaire.
Alors c'est le fait de volontairement, d'intentionnellement donner la mort à une personne, avec ou sans arme, hein, et c'est un crime qui est puni d'une peine de prison maximale de 30 ans.
Dans le cas qui nous intéresse, le policier explique avoir tiré parce qu'on fonçait sur eux.
Oui, dans le rapport que nous avons pu consulter, les policiers expliquent qu'ils se positionnent autour du véhicule garé à contresens. Trois hommes sont à l'intérieur, la chef d'équipage ouvre la portière, la voiture démarre. Selon plusieurs témoignages, la policière est traînée sur 5 mètres, puis lâche le véhicule. C'est un élément qui, à ce stade, doit encore être confirmé par l'enquête. Un autre fonctionnaire se trouve face au véhicule et, toujours selon le rapport, s'écarte juste à temps. Celui qui tient le fusil d'assaut ouvre le feu sur les occupants. Là, l'enquête va devoir déterminer où se trouvait le tireur exactement, pourquoi il a tiré une dizaine de cartouches et s'il l'a fait en plusieurs temps, c'est-à-dire sur l'avant puis sur l'arrière du véhicule en mouvement.
Mais on n'est pas dans la légitime défense.
Bah, aux yeux des juges, c'est discutable, très discutable. Même l'usage de l'arme doit répondre à deux exigences. Est-il nécessaire et est-il proportionné? Après 48 heures de garde à vue dans les locaux de l'IGPN, le procureur estimait qu'il y avait des doutes, que des indices laissent entendre que le policier a peut-être agi au-delà de la légitime défense. Mais hier soir, les juges d'instruction sont allés au-delà de tout ça. Ils ont retenu le qualificatif d'homicide volontaire. Ils vont donc se questionner sur l'intention de tuer le conducteur. En fait, ça va être une des questions centrales de ce dossier, savoir si le danger existait encore au moment où le policier a ouvert le feu. Les juges d'instruction vont donc mener une longue enquête pour tenter d'apporter une réponse à cette question. Car rappelons-le, ce qui a été décidé hier, c'est une mise en examen. À ce stade, il n'y a aucune condamnation légale.
Et pour que les choses soient claires, les juges ont fondé leur opinion sur les 5 témoignages des 5 policiers et il y a également le témoignage d'un chauffeur de taxi.
Exactement.
Et tous, a priori, parlaient de légitime défense.
Oui.
Et malgré cela, ils n'ont pas entendu cela. Donc, pourquoi? Sur quels autres éléments se sont-ils fondés?
Il y a des éléments techniques, les impacts de balles dans la voiture notamment. Donc tout ça, il va falloir le vérifier. Ils ne peuvent pas clore l'enquête et dire tout de suite « il y a une légitime défense, on ne fait rien ».
Maître Brengart, cette mise en examen pour homicide volontaire, elle vous a surpris, vous?
Elle ne m'a pas véritablement surpris par rapport aux éléments publics qui sont connus de cette affaire. Étant évidemment rappelé que qui dit mise en examen dit existence d'indices graves et concordants, mais dit aussi présomption d'innocence, c'est-à-dire que nous sommes au début des investigations judiciaires qui vont être menées donc par le magistrat qui a été désigné. Il appartiendra donc aux policiers de faire valoir leur défense. Parce que ici, il faut rappeler aussi que le cadre est un cadre strict, c'est-à-dire que matériellement, manifestement, il y a eu un homicide. Il y a eu un homicide puisqu'il y a eu une personne décédée des suites de l'utilisation d'une arme à feu par un fonctionnaire de police. Toute la question désormais de l'information judiciaire, ça va être de savoir si cette infraction peut être neutralisée par l'existence de ce qu'on appelle un fait justificatif et ici donc neutralisé par l'existence d'une légitime défense du policier.
Et par exemple, pardonnez-moi, mais si le policier avait tiré dans les pneus de la voiture?
Mais si le policier avait tiré dans les pneus de la voiture, il aurait été plus facilement couvert par ce que la loi prévoit, parce que je tiens simplement à indiquer qu'il y a donc un double régime. Vous avez non seulement la légitime défense qui est entendue de façon classique, c'est-à-dire qu'on n'est pas pénalement responsable, celui qui devant une atteinte injustifiée va accomplir un acte commandé par la nécessité de la légitime défense. Ça veut dire qu'on doit remplir deux conditions. Il doit y avoir une proportionnalité entre la riposte et la gravité de l'atteinte subie. Ici, on peut se poser la question, puisque vous avez l'utilisation d'un fusil d'assaut pour arrêter un véhicule. Donc, on voit que véritablement, la proportionnalité peut être problématique. Donc, non seulement c'est la première condition, celle de la proportionnalité, et après, vous avez en plus la condition qui a trait à la concomitance entre l'atteinte subie et la riposte. Or, selon les éléments, encore une fois, publics dont nous disposons, et sous réserve, encore une fois, de ce que pourra révéler l'information judiciaire, on voit qu'il existe un doute sur le point de savoir si le policier a tiré après ou non que l'un de ses collègues ait pu éviter la voiture. Mais vous voyez bien que la question va véritablement s'apprécier de façon différente, parce qu'on ne pourra pas revendiquer une légitime défense dans le cas où il n'y aurait pas eu de concomitance entre l'attaque et la riposte. Parce que si la riposte a eu lieu après l'atteinte et après l'attaque, à ce moment-là, la légitime défense ne trouve absolument pas à s'appliquer.
Le fusil d'assaut, c'est l'arme qui est donnée à cette patrouille, précisément, qui est sur le quai des Orfèvres, parce que cet arrondissement de Paris a parfois été l'objet de menaces.
Oui.
Donc, le fusil d'assaut, il est dans les règles, d'une certaine manière.
Il est en vigueur depuis 2015, de toute façon, depuis les attentats, et c'est vrai que dans les alentours de la préfecture de Paris, il y a eu un attentat dans la préfecture de Paris. Il y a eu une attaque au couteau sur le parvis de Notre-Dame. Donc, effectivement, c'est des policiers. C'est un endroit de la capitale qui est en plein cœur et qui est emblématique. Donc oui, c'est un endroit où il peut se passer des choses.
Mais il y a une difficulté, Guillaume Chiez, à mener une enquête comme celle-là, puisqu'il n'y a que des témoignages humains. Lorsqu'une voiture fonce sur vous, que vous êtes un policier, j'entendais ce matin le syndicat Alliance dire si ce policier ne répond pas comme cela, il y a trois morts. Trois morts parmi la police. C'était ce que disait le syndicat d'Alliance. Donc la difficulté de mener une enquête avec uniquement des éléments de témoignage ne va pas être simple.
Il n'y a pas que des témoignages humains. Effectivement, il y a les premiers témoignages qui sont humains, mais l'IGPN a aussi requis toute la vidéosurveillance entre le Pont Neuf et le quai des Orfèvres. Donc il va y avoir une analyse fine des vidéos. On va voir si on peut estimer la position du tireur, estimer la direction de la voiture, estimer où sont les autres collègues de ce policier qui a tiré et s'il y avait un danger imminent ou pas pour celui qui se trouvait face au capot.
On parlait des impacts de balles aussi, j'imagine que ça donne les analyses techniques qu'il va y avoir
sur le pare-brise avant, le pare-brise arrière, et on va pouvoir déterminer exactement la trajectoire des balles.
Dernière chose, le profil de ces deux personnes qui sont décédées, si j'ai bien compris, c'était deux dealers ou deux stupéfiants, et la personne qui était derrière, qui était à la place du passager, était un client avec qui ils étaient en train de dealer, en tout cas de vendre du cannabis ou de la drogue.
C'est pour cette raison que les policiers interviennent, c'est parce qu'ils estiment qu'il y a sûrement une transaction de produits stupéfiants en cours. Effectivement, les deux qui sont décédés étaient connus pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Dernière question, Maître. On le disait, le syndicat Alliance dénonce de son côté une décision inadmissible, appelle à un rassemblement lundi. Vous comprenez la colère de ces policiers face à une telle décision ?
Non, je pense qu'il y a véritablement une part d'exagération. Maintenant, c'est à la justice de faire son travail. Parce que j'ai rappelé non seulement les termes de légitime défense, ici je rappelle quand même qu'une personne est décédée. Et vous indiquez tout à l'heure...
Deux personnes
sont décédées. C'est un drame avec des familles qui attendent des réponses et en miroir aux réponses qui sont attendues. Moi, je tiens aussi à rappeler, encore une fois, le cadre juridique très strict. Vous avez notamment le code de la sécurité intérieure qui prévoit de façon extrêmement claire qu'on ne peut faire usage des armes qu'en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée.
Quand une voiture fonce sur vous dans un état de stress, et c'est pour ça que je disais l'enquête, comment déterminer, comment arriver au bout de cette enquête, convenez que ce n'est pas facile.
Mais il y a plusieurs choses. Il y a le point de savoir si la riposte a eu lieu au moment où la voiture aurait foncé sur les policiers. Et puis la deuxième chose, c'est de savoir si le fait de tirer notamment dans l'habitacle peut être considéré comme une riposte strictement proportionnée, parce que notamment les dispositions que je rappelais tout à l'heure du code de la sécurité intérieure prévoient des cas dans lesquels il peut être fait usage d'une arme lorsque vous avez une personne qui ne répond pas, ou en tout cas qui ne respecte pas l'ordre des policiers, mais on vous dit bien que l'usage de cette arme intervient pour pouvoir contraindre le véhicule à s'arrêter.
Oui, autrement sauf que dit, tout ça se passe dans un temps je ne sais pas combien de temps ça dure, Guillaume, mais c'est très court.
C'est très court et c'est toute la difficulté de l'enquête entre les mains des juges d'instruction actuellement.
Merci.
Merci à vous. Merci.
Merci à vous.
Merci Guillaume Chiez. Et effectivement, c'est un drame, bien sûr, et il faut le rappeler pour ces deux jeunes gens et pour leur famille. Dans une seconde, nous allons évoquer ce mannequin qui est à la une de Elle. C'est une vedette aujourd'hui. Elle est mannequin célèbre et elle a été amputée des deux jambes. Et le journal Elle a choisi de la mettre précisément, peut-être pour cette raison, à la une. À tout de suite.
RTL Midi. RTL Midi avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
12h52 sur RTL et on a donc choisi de s'arrêter aujourd'hui sur cette une du magazine Elle, en photo, une top modèle aux jambes en or au sens propre du terme, amputée après un choc toxique lié à l'utilisation d'un tampon hygiénique. Lorraine Vasseur affiche fièrement ses prothèses dorées, une sacrée leçon de vie que nous raconte cette semaine Dorothée Werner. Bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes grand reporter au magazine Elle. Dites-moi si je me trompe, mais c'est la première fois que Elle met à la une un mannequin en situation de handicap.
Ah oui, à ce point, oui, bien sûr. Amputé des deux jambes, oui, bien sûr.
Ça a fait débat au sein de la rédaction. C'était une évidence, racontez-nous.
Ah non, c'était une évidence. Non, c'est d'abord parce que cette fille est avant tout très belle.
Oui, elle est quand même d'ailleurs, sublime. Enfin, pour être très honnête, quand j'ai vu la une, on voit pas tout de suite les jambes.
Absolument.
Ses prothèses. Et on la regarde, voilà, elle, d'abord.
Absolument. Elle est belle et spectaculaire, mais aussi parce qu'elle est porteuse de toute son histoire, de tout son combat. C'est une histoire c'est une leçon de vie qu'elle nous donne. C'est une histoire de résilience. Et c'est quelqu'un qui refuse, mordicus, d'être limitée et réduite à un statut de personne handicapée. C'est pas comme ça qu'elle se vit. Et c'est aussi ça qui fait qu'on a eu envie de la mettre en lumière, en couverture de Elle, ouais, bien sûr.
D'ailleurs, elle ne prononce pas le mot handicapé, hein, ça ne fait pas partie de son vocabulaire, expliquez-vous. Enfin, vous écrivez ça pour vivre en fauteuil roulant dans un monde qui s'en fout. Croyez-moi, il faut avoir des super pouvoirs, surtout mentalement, voilà ce qu'elle dit. Elle ne parle pas non plus de prothèse.
Non, ce sont deux mots que moi j'ai prononcés dans l'interview, évidemment. Elle parle de ses jambes, même si ce sont effectivement des prothèses artificielles, mais elle accepte toutes les questions, elle répond à tout, elle est vraiment d'une gentillesse exquise. C'est aussi une combattante qui ne laisse aucune zone d'ombre sur son histoire. Mais il y a deux mots qu'elle refuse absolument, et d'ailleurs elle se rigidifie légèrement quand on les prononce devant elle, c'est le mot handicapé et c'est le mot prothèse. Je crois que c'est une manière de se défendre justement des regards qui la réduiraient simplement à ça.
Est-ce que Lorraine Vasseur a le sentiment également d'être une ambassadrice de ceux qui ont parfois des vies, fracturées, et qui malgré tout se battent et mettent dans un domaine où il y a une exigence parfois de perfection, qui est la mode, justement, elle arrive avec ses imperfections.
Absolument. Elle est très fière d'être... D'abord, elle est encore sidérée d'être acceptée dans ce monde de la mode qui a été si longtemps normatif, et d'être regardée par des gens dont elle était sûre qu'elle attirerait plus aucun des regards. Donc, elle est très en pleine gratitude de ça, et même elle est très fière d'être le visage de cette mode plus inclusive, qui est plus acceptante de beautés différentes. Bien sûr, c'est une de ses immenses fiertés. Ouais.
Le chemin est malgré tout encore long. Vous disiez, c'est la première fois que le magazine Elle, par exemple, met à sa une quelqu'un dans une telle situation. Dans les publicités, on commence à voir ça un tout petit peu, mais c'est vrai que ça reste encore, je lisais, c'est à peine 1% des publicités hein, qui mettent en... 1%, ouais, c'est ça. 1% pardon, du marché global qui mettent en lumière quelqu'un avec un handicap visible.
Alors voilà, il y a deux choses différentes. D'abord, il y a le journalisme et puis la publicité. C'est vrai que le monde des représentations des femmes a longtemps rechigné à mettre en avant des rondes, des femmes qui n'ont pas une peau parfaite ou qui ont un petit défaut physique, etc. Nous, à elles, il faut reconnaître que c'est une chose qu'on fait régulièrement, même avec des beautés, au départ, on disait atypiques. aujourd'hui, les choses sont en train de changer à vitesse grand V, et Lorraine Vasseur et son succès auprès de toutes les marques les plus chics du monde qui la font défiler au milieu des autres filles, hein, sans la mettre à part, c'est vraiment la preuve que le regard est en train de changer complètement. Ouais.
Alors Lorraine Vasseur, elle a aujourd'hui 32 ans, elle se bat donc bien sûr pour que ce handicap qu'elle ne veut pas prononcer soit complètement inséré dans la société. Son autre combat, c'est l'origine de cette amputation. Alors, il faut peut-être l'expliquer. Jusqu'à 24 ans, elle avait ses deux jambes, elle était tout à fait normale et elle a été donc victime de ce qu'on appelle un choc toxique dû à l'usage d'un tampon hygiénique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Dorothée, de quoi il s'agit ?
Oui, c'est la confrontation entre l'usage d'un tampon hygiénique et d'une bactérie dormante dans son corps. C'était une fille en pleine forme qui ignorait qu'elle était porteuse potentielle de cette bactérie. Ça a donné une infection généralisée d'une ampleur immense qui fait qu'on l'a mise aussitôt dans un coma artificiel, mais qui a provoqué la gangrène de ses jambes. Ouais.
C'est quelque chose de courant.
Alors, les chiffres sont très difficiles à obtenir parce que c'est un syndrome qui n'avait pas été identifié comme tel par la médecine. C'est très récent. Donc, il y a plein de c'est très difficile d'avoir des chiffres, même si Lorraine Vasseur se mobilise et est complètement investie dans cette cause, puisque ça fait 10 fois qu'elle essaye de faire passer une loi devant le Sénat américain obligeant les fabricants à détailler en gros sur leur boîte de tampons hygiéniques les contenants, notamment chimiques ou polluants dont sont faits le coton. Elle rassemble aussi des familles endeuillées qui ont perdu leur fille, leur mère dans des circonstances similaires.
Et elle dit, c'est un peu vulgaire, mais je vais le dire parce que ça explique tout. Si les hommes risquaient de perdre leur bite dans des circonstances similaires, cette loi serait déjà votée depuis longtemps.
Voilà.
Merci Dorothée Werner, c'est vous qui avez réalisé cette enquête et je pensais à un parallèle avec Aime le Monde, je crois, il y a 15 jours, qui avait affiché les nouveaux visages de la beauté. Et c'est vrai que le regard aujourd'hui sur la beauté a évolué et c'est sans doute une bonne chose. Il est 12h59, nous allons être avec les auditeurs dans une seconde.
RTL Midi.